Voilà, frères et sœurs, je veux d'abord vous remercier de la confiance que vous m'accordez, puisque vous m'avez invité, alors au travers de la commission des ministères, je crois, mais de l'accord du Conseil, à être là ce matin, et puis, si vous le souhaitez, à continuer à venir chaque mois. Alors, frères et sœurs, moi, on m'a demandé de me présenter, ça c'est extrêmement délicat. Je pourrais dire toutes les immenses qualités que je possède. Ouais, j'ai des chevilles qui ont tendance un peu à enfler. En vérité, très sincèrement, je suis devant vous un miracle vivant. Une espèce de phénomène de la grâce. Il a plu à Dieu de me confier le ministère de la parole dans un autre siècle et même dans un autre millénaire, pour vous dire. C'était en 1978. Oui, c'est un temps qui a existé. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est... Non, je vous jure que 1978, ça a existé. Hein, je vous le garantis. Et c'était à Amiens. Et puis ensuite à Orléans, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, puis à Bordeaux, et puis à Paris, à l'avenue du Maine. Voilà, j'ai été pendant ces années, j'ai appris, on apprend, on est toujours en apprentissage, hein, j'ai appris à n'être que serviteur de l'Église de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ en servant son Église et serviteur de la parole. Et c'est à ce titre-là, voilà, que je suis avec vous ce matin et que je souhaite partager la parole de Dieu. Alors je précise que j'habite hélas loin, 250 km, c'est quand même pas la porte d'à côté. Mon épouse vous salue. Certainement qu'on aura l'occasion de venir ensemble un mois ou l'autre, mais elle est assez engagée dans le service de notre assemblée à Châtellerault. Donc, il faut bien chronométrer, organiser pour qu'elle puisse se libérer et qu'on vienne en voiture et non pas en train. Mais je vous promets qu'elle existe, que vous la verrez aussi, qu'elle a eu également... D'abord, elle a eu un rôle à mon côté qui était fondamental. Je n'aurais pas fait ce que j'ai pu faire s'il n'avait pas été ma bénédiction à moi. Et j'y tiens beaucoup. Et puis, elle a également servi dans le cadre de la fédération. Elle a été présidente ou vice-présidente, je ne sais plus, de la commission des ministères pendant un certain nombre d'années. Voilà. Mais elle m'a chargé de vous saluer. Voilà, j'étais heureux de partager ce temps avec vous et... déjà, le temps de prière avant le culte. Je veux dire pourquoi j'étais particulièrement heureux de le vivre avec vous. C'est que ce temps de prière, à ma grande joie, a été introduit par un texte des Écritures. Le texte, la parole de Dieu, est venue en premier. Et de la parole de Dieu, nous avons été invités à prier. La parole de Dieu nous a aidés à prier. Et j'aime cette priorité accordée à la parole du Créateur. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup réjoui, parce que ça se fait assez rare dans les églises. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il se trouve qu'aujourd'hui encore, après quelques années de retraite, je circule pas mal, et que ça devient rare. On prie sans nourrir sa prière des Écritures, sans qu'elles naissent, sans qu'elles soient portées par la parole de Dieu. J'étais extrêmement béni ce matin de ce temps de prière. Merci. Voilà, j'ai ma Bible de voyage. En général, j'en ai une plus grosse, mais là, c'est toujours ma Bible de voyage. Mais vous savez ce que je tiens au creux de ma main, là ? Qu'est-ce que j'ai au creux de ma main ? Un trésor, effectivement. ce que j'ai au creux de ma main, donc je pose là maintenant, mais c'est l'océan de la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas une expression qui est à moi, je l'ai empruntée à un certain Origène, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, c'est un théologien du 3e siècle, donc les années 200-300, qui est celui qui a beaucoup travaillé, réfléchi, formulé autour de la lecture de la Bible, de l'interprétation biblique. Et Origène, passionné des Écritures, parlait de la Bible comme de l'océan de la parole de Dieu. Et personnellement, j'aime beaucoup cette expression. Océan de la pensée de Dieu. Vous avez peut-être été à la mer cet été, là. C'est pas bien loin, il y en a qui sont allés à la mer. De Clermont, c'est un peu loin, la mer, mais à plus forte raison, on y va pendant les vacances, hein, peut-être. Alors la mer, avec ses plages, avec ses courants, avec ses profondeurs insondables. Et on sait aujourd'hui que les océans maritimes sont absolument essentiels à la vie de notre planète. Si on laisse les océans se polluer, si les océans se réchauffent, la vie sur notre planète va devenir extrêmement difficile. Bien, il en est ainsi de l'océan des Écritures. Sans les Écritures, notre foi se rabougrit. Elle se dessèche, oh, petit à petit. Mais elle se dessèche, elle s'appauvrit, elle est au risque de stériliser. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un processus lent. Vous savez, c'est comme la pollution, c'est un processus lent. On ne s'en rend pas compte. Quand on s'en rend compte, on est déjà dans le drame. C'est qu'on a déjà franchi quelque chose de dangereux. Alors je sais, frères et sœurs, que même si j'ai pris une petite Bible de voyage, je sais que la Bible peut apparaître à beaucoup comme quand même un gros livre, compliqué. Oui, ce n'est pas nécessairement un livre simple, hein, je suis assez d'accord, je ne veux pas jouer le naïf qui dit « Non, non, vous savez, c'est extrêmement simple à lire. » Non, 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 c'est vrai. Mais je sais que la parole de Dieu, elle est source de guérison. De mille façons, l'existence nous blesse, l'existence nous meurtrit. Moi, je ne vous connais pas. Alors, il y a peut-être quelques-uns que j'ai croisés un jour ailleurs, mais pas trop. Je ne vous connais pas. Mais je suis certain que celui ou celle qui pourrait dire, vous savez, moi, la vie ne m'a jamais blessé, la vie ne m'a jamais meurtri, il serait l'exception dans l'assemblée que nous formons. De la parole de Dieu vient la guérison. C'est dans la Bible que nous cherchons la parole de Dieu. Cette parole incarnée, vivante, en Jésus. Eh bien, la Bible nous conduit à Jésus. Et Jésus nous conduit à la Bible. C'est un mouvement circulaire qui enrichit, qui approfondit, qui amplifie notre relation à Dieu. Rien n'est plus essentiel. Et voilà, frères et sœurs, ma vocation devant Dieu, mon service fraternel est de vous encourager à peut-être mettre les pieds dans l'eau de la parole, dans l'océan de la parole, de vous donner le goût de l'océan, le goût de ses profondeurs, qui ne sont pas des profondeurs qui nous effrayent, mais au contraire, des profondeurs qui nous apaisent, parce que c'est la profondeur de l'amour de Dieu, c'est la profondeur de la grâce de Dieu. Alors cette année, puisque Dieu voulant, je serai avec vous au moins une fois par mois, je m'offre, si vous l'acceptez, ça sera à vous de dire, passez par le conseil, hein, toutes les plaintes passent par le conseil, je m'offre à être, qu'est-ce qu'on va dire, un compagnon pour qu'ensemble nous soyons encouragés à plonger dans l'océan des Écritures. Et cette découverte-là, je vous propose de la faire dans l'année qui vient, à l'écoute du livre des psaumes. Le livre des psaumes, qui est un livre qu'on a un petit peu... On oublie que c'est un livre, hein, on le considère comme une boîte de fiches, alors on prend une fiche, mais Voilà, le livre des psaumes. Alors, vous allez me dire, pourquoi le livre des psaumes ? Bien, d'abord, parce que les psaumes sont au cœur de la vie spirituelle de Jésus. Dans la formation que Jésus a reçue à la synagogue, en son temps, les psaumes étaient fondamentaux. Et quand on regarde la vie de Jésus, on voit en permanence l'expression des psaumes. Pour comprendre les psaumes, pour prier avec les psaumes, il faut apprendre à voir comment les psaumes et Jésus sont intimement entrelacés. Jésus prie les psaumes, à la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas juste une petite citation qui fait comme on fait des citations. L'expression de sa crise, l'expression de la tragédie qu'il vit, spontanément, naturellement, elle se manifeste par les psaumes parce qu'il est habité par les psaumes. Jésus est l'homme qui prie les psaumes. Il est cet homme qui, dans la foi, ose dire « je » à Dieu. Vous avez remarqué que les psaumes, c'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais que cette année on les parcourt un peu ensemble, c'est le seul livre de la Bible où l'homme s'adresse à Dieu. L'homme dit « je » à toi, Seigneur. Bien, ce « je » est fondamentalement d'abord le « je » de Jésus-Christ. Et parce que ce « je » est celui de notre Seigneur, il nous invite à nous en saisir et à faire de ce « je » des psaumes le « je » de notre vie. Les psaumes deviennent alors ma prière. Les psaumes portent devant Dieu toute notre expérience de la foi et de la vie. Vous avez dans les psaumes la joie la plus intense, la paix la plus profonde, mais vous avez aussi l'incompréhension la plus dense. Quelquefois, les psaumes se font interrogateurs de Dieu avec une force, une violence, une détresse terrible. Les psaumes portent aussi la confrontation douloureuse au mystère du mal. Voilà, tout est là dans les psaumes. Ce que je ne sais pas dire, ce que je n'ose pas dire, ce que je n'ose pas me dire à moi-même, tout est là. C'est pour ça que je vous propose, dans l'année qui vient, de méditer autour de différents psaumes. Alors, il n'y a pas 150 dimanches dans l'année, hein, donc ça sera nécessairement quelques psaumes en cours d'année. Et ce matin, j'aimerais vous inviter, alors, excusez-moi, à pas commencer par la plage, où on patauge. Voilà, on peut faire quelques brasses, mais vous invitez vers la grande profondeur. Tant qu'à faire, commençons par la grande profondeur. Alors, rassurez-vous, vous ne savez peut-être pas bien nager dans les Écritures, mais vous allez apprendre. Et une partie de ma famille était en Écosse cet été, ils m'ont dit avoir utilisé, j'y étais pas, mais un bateau qui avait un fond en verre, qui permettait de se déplacer entre les îles écossaises et d'admirer le fond marin, les profondeurs marines, parce que le fond était en verre. Alors, voilà, on va rester, si vous voulez, dans un bateau, mais j'aimerais que le fond soit en verre pour que nous puissions percevoir un peu les profondeurs et la richesse de la parole de Dieu. Donc, je vous propose le psaume 119. Vous connaissez le psaume 119 ? Alors, quelle est sa singularité, ce psaume ? Il est long. Il est terriblement long, d'accord. Alors, là, je voudrais faire remarquer que c'est une longueur. C'est pas juste qu'il est un petit peu plus long que les autres, c'est une longueur exceptionnelle. Il a 176 versets. C'est record, toute catégorie imbattable. Le second psaume le plus long, il ne compte que 72 versets. 104 versets de moins. Alors ça, c'est bizarre quand même. Est-ce que c'est accidentel ? Est-ce que c'est un jour où le psalmiste était dans une espèce d'exaltation spirituelle étonnante et que, hop, là, il a laissé déborder le quota moyen de 25-28 versets par psaume ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas accidentel, c'est totalement volontaire. Pourquoi ? Pourquoi ce psaume est-il si long? Pourquoi, de ce point de vue-là, est-il si différent de tous les autres? Alors, la première réponse, très rapidement, c'est que ça résulte d'un choix littéraire. Je ne sais pas s'il y en a qui font des études de lettres ou qui sont profs de lettres par ici. Oui, non, non, pas. Nos églises sont bourrées d'ingénieurs, d'informaticiens. Il n'y a pas quelques-uns qui sauvent l'honneur des études de lettres. Bon. C'est un psaume, ce qu'on appelle, il y en a, selon comment on les compte, il y en a 7 ou 8. C'est un psaume alphabétique. C'est-à-dire que, voilà, là est l'astuce d'écriture. Chaque verset commence par une lettre différente, alors, de l'alphabet hébraïque, dans l'ordre de l'alphabet. Il y a d'autres psaumes comme ça. Mais celui-ci, il a la particularité que chaque lettre est répétée 8 fois. Donc vous avez 8 versets et 22 strophes, puisqu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Ben, 22 fois 8, ça les ingénieurs le savent, ou les calculettes le savent, 176. Voilà, ça c'est la raison, on pourrait dire c'est la raison littéraire, hein, c'est pour ça qu'il est long. Mais c'est pas rien pour autant. Essayez, ou même avec une seule, pas huit, une seule, essayez d'écrire une prière à Dieu où vous prenez l'ordre alphabétique français. Alors A, c'est très facile, hein, à toi la gloire, B, béni soit ton nom. Quand vous arrivez dans les W, les X, les K, ça devient compliqué. Bah, c'est la même chose en hébreu, c'est assez compliqué. Et qu'en fait, la vraie question, c'est pourquoi a-t-on voulu que ce psaume soit si long? Parce que c'est une vraie volonté, hein, je me dis, ce n'est pas un accident. Il y a une intention, il y a un projet. Alors cette écriture très, très élaborée, à 176 versets, en vérité, elle est comme une sorte de poteau de stop géant, immanquable, au cœur de la Bible. Stop ! Arrête-toi ! Arrête-toi parce que voilà l'essentiel. Voilà ce qui est fondamental. Ne passe pas au-dessus, stop ! Tu ne peux pas passer au-dessus. 177 versets, tu t'y heurtes. Donc, arrête-toi. Et c'est essentiel, c'est, si vous connaissez le thème général de ce psaume, c'est la Torah, c'est-à-dire la loi du Seigneur. Le problème avec le mot « loi » en français, c'est que la loi, c'est toujours un peu sec, un peu rabougri, on aime plus ou moins, on respecte, oui. Les Français respectent la loi, oui, sauf que là, il y a une exception, non. C'est la parole du Seigneur. C'est la Torah, vous savez, gravée du doigt de Dieu sur les pierres. Et dans chaque verset, sauf 4, dans chaque verset, vous avez une variation. Il va être question, alors on ne va pas s'arrêter là-dessus, mais de loi, de jugement, de parole, de commandement, de précepte, de décret. Ce n'est pas simplement des synonymes. C'est des variations qui ont du sens. Alors, on ne s'arrêtera pas là ce matin, je vous rassure. Chaque verset de ce psaume évoque la Torah, la loi, la parole de Dieu dans sa relation aux croyants. Et je vous signale, alors vous vérifierez cet après-midi là, en lisant les 176 versets, bien sûr, hein, il n'est jamais question de sacrifice. Il n'est jamais question du temple de Jérusalem, rien de cet ordre-là, uniquement la parole du Seigneur. Ce psaume, c'est un peu pour ça que j'ai souhaité que nous commencions là, il est celui des chercheurs de Dieu, des affamés de Dieu, des assoiffés de la justice de Dieu. Il faut désirer Dieu. Il faut être affamé de la parole de Dieu, affamé de sa justice pour entrer dans la méditation de ce psaume. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre la loi par cœur. C'est facile. Si on a un tout petit peu de mémoire, les 10 commandements par cœur, il y en a probablement parmi nous qui pourraient les réciter. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de comprendre la Torah de Dieu avec son cœur. C'est pas pareil, hein ? C'est pas mémoriser par cœur, c'est apprendre à la connaître avec son cœur, y être attaché. J'aimerais lire avec vous une quinzaine de versets de ce psaume, pris au verset 25. Alors, il y a un style propre qui, pour nous, parfois peut paraître un petit peu difficile, mais c'est le style du psaume. Rappelez-vous que c'est une prière qui s'adresse à Dieu. Je suis collé à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. Je raconte mes voies et tu me réponds. Apprends-moi tes prescriptions. Fais-moi comprendre la voie de tes directives et je méditerai tes actes étonnants. Je pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la probité, je me conforme à tes règles, je m'attache à tes préceptes. Seigneur, ne me rends pas honteux, je cours dans la voie de tes commandements, car tu mets mon cœur au large. Enseigne-moi, Seigneur, la voie de tes prescriptions, pour que je les garde jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de l'illusion, fais-moi vivre dans ta voie. Réalise envers moi, ton serviteur, ce que tu as dit en faveur de ceux qui te craignent. Détourne de moi le déshonneur qui m'effraie, car tes règles sont bonnes. Je soupire après tes directives. Fais-moi vivre dans ta justice. Vous entendez cette prière ? Me voici collé à la poussière. Attaché à la poussière, selon ta parole, fais-moi revivre. Qui d'entre nous n'éprouve jamais ce sentiment d'être collé à la poussière ? Moi, j'aspire à voler avec les anges, mais je rampe comme le serpent. J'aspire au royaume de Dieu, mais consacre mon temps aux richesses de la terre. Mais ce n'est pas une expérience qui nous appartient à nous, christianisme dégénéré, hein, pas du tout. L'apôtre Paul dit la même chose quand, vous savez, le fameux texte de Romains 7, Paul dit « Je veux faire le bien et je fais le mal que je fais. Je ne comprends pas, hein, » dit l'apôtre Paul. Mais voilà, collé à la poussière, Seigneur, je crie vers toi. Fais-moi revivre. Je sais que je suis collé à la poussière. Je connais cette tentation. Je connais cette dimension permanente, constante de ma vie. Mais je crie, fais-moi revivre. La parole de Dieu, qui est Jésus, le Christ, notre Seigneur, nous délivre de tout ce qui nous colle au sol. Elle nous délivre de ce qui nous rend petits, moi de ce qui me rend parfois même médiocre. Elle nous délivre de tout ce qui nous désespère. Mais considérez dans les évangiles, tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont nos frères, hein, nos sœurs, qui sont collés à la poussière. Alors parfois ils sont collés à la poussière, même souvent, par le regard des puissants, par le regard de ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Ils sont collés à la poussière par les accidents de la vie. Ils sont collés à la poussière par la maladie. Et cela, ils crient vers Jésus-Christ. Ils crient à Jésus, fais-moi revivre, guéris-moi, relève-moi. Et d'une certaine manière, Jésus les ressuscite. Avec le mot relevé, c'est aussi le mot résurrection. Hein, il est relevé d'entre les morts. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Dit Paul. À un moment, c'est une espèce de parole qui pourrait être une parole de découragement, de désespoir, mais pas. Non, non. Puisqu'il continue, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et d'ailleurs, frères et sœurs, qui, plus que Jésus, a été collé à la terre par le regard et l'injustice des puissants ? Jésus a été collé à la terre jusqu'à la tombe. Et lui criait au Père, « Fais-moi revivre !» Et le Père l'a ressuscité. Voyez-vous, frères et sœurs, les psaumes témoignent de la guérison que la parole de Dieu opère dans une vie malmenée. Les psaumes, parce qu'ils sont en lien fondamentaux, uniques, forts avec Jésus-Christ, les psaumes portent notre guérison. Un peu plus loin, en verset 28, « Le chagrin a fait couler mes larmes. » Je crois qu'en hébreu, c'est « mes larmes tombent goutte à goutte ». Pour dire « goutte à goutte ». C'est l'idée de pas des larmes accidentelles, quelques instants, d'un état permanent, de larmes, de détresse, de souffrance. Et voilà que Jésus dit « heureux ceux qui pleurent ». Et qu'heureux, c'est béatitude, ça a le sens de « béni ». Soit celui qui pleure. Et on pourrait même pas le traduire ainsi, mais ça a le sens de vivant et celui qui pleure. Les larmes du découragement, les larmes de l'incompréhension, les larmes de ce temps de pourquoi qui habite nos vies, dans les larmes qui sont liées à notre histoire, les larmes des trahisons. Dans des vies de couple, les larmes des abandons, les larmes des échecs. Il y a tant de larmes dans une vie. Alors, entends ma prière, Seigneur, relève-moi selon ta parole. Toi qui as ressuscité ton Fils, relève-moi. Et là, nous entendons la voix de Jésus qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Et nous vivons de cette espérance, vous savez, celle qui est portée par les prophètes, mais qu'on voit aboutir à la fin de l'Apocalypse, cette promesse, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Une des choses les plus précieuses dans notre foi de chrétien, c'est l'assurance de l'espérance. Vous voyez, comme les psaumes nous conduisent à Jésus et Jésus nous conduit au psaume. Collés à la poussière, dans le chagrin, nous voici maintenant, comme le dit encore le psaume, de ceux qui courent, donc toute la vie qui est là, de la vitalité, qui courent sur le chemin des commandements du Seigneur. Au cœur de chaque psaume se tient Jésus-Christ, le Seigneur. Et tant que nous ne le voyons pas, le psaume demeure obscur, lourd, fermé. Moi, sans la Bible, et en particulier sans les psaumes, faire un aveu, je ne sais pas prier. Oh, je sais faire des prières, d'accord ? Au bout de 40, je ne sais pas combien d'années de vie pastorale, on sait faire des prières. Non, non, mais je ne parle pas de faire des prières, je parle de prier. Le moment où l'âme est engagée devant Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu, j'ai besoin des psaumes, parce que c'est cette parole qui fait naître ma propre prière, celle que même je vais refuser, celle à laquelle je vais essayer de me soustraire, mais qui s'exprime devant Dieu. Ouvrant la Bible, et c'est pour ça que j'étais heureux que ce matin on commence ce temps de prière sur le texte de l'Épître aux Romains, j'y reviendrai tout à l'heure, juste un instant. Vous savez, je demande à Dieu d'ouvrir les yeux de mes yeux. Mes yeux savent lire le texte. Et ce que je lui demande, c'est d'ouvrir les yeux. L'expression « les yeux de mes yeux », elle n'est pas de moi. Je ne sais pas si vous connaissez le poète Christian Bobin, qui est décédé il y a 2 ans. C'est à lui que j'emprunte cette expression. « Les yeux de mes yeux ». C'est-à-dire être, de me rendre capable, au-delà des lettres, des mots, des phrases, de voir la parole de Dieu vivante. Et au verset 34... s'exprime une demande qui est... Elle est rare. Elle est rare parce que... on a tendance à manquer d'humilité devant les Écritures. Il faut bien reconnaître que, voilà, devant les Écritures, moi, qui les lis depuis plus de 50 ans et qui les étudie depuis 50 ans, je suis encore émerveillé de ne pas connaître leur profondeur. Chaque texte biblique est inépuisable. Chaque récit biblique est inépuisable. Ne pensez pas, parce que vous l'avez étudié à fond la semaine dernière, que vous en avez fait le tour. Vous en avez fait le tour aujourd'hui et maintenant. Revenez dessus 3 semaines, 3 mois après, et vous direz, mais c'est pas possible, je n'avais pas vu ça. Mais cette prière qui demande de l'humilité, c'est celle-ci. Rends-moi intelligent, j'observerai ta loi et je la garderai de tout cœur. Rends-moi intelligent, j'observerai ta loi. Alors, on n'est pas là dans une intelligence de performance intellectuelle, hein, de coefficient intellectuel, hein, pas du tout, du tout. C'est la sagesse de Dieu pour comprendre la loi de Dieu. Et le temps de prière ce matin partait du texte de Romains 12 sur le renouvellement de l'intelligence. Or, cette prière qui demande à Dieu de me rendre intelligent, c'est-à-dire que cette intelligence, elle ne peut pas venir de moi, elle ne peut venir que de lui. Elle est don de Dieu. On la retrouve plusieurs fois. Et ici, au verset 34, mais le verset 73, un peu après, dit à peu près la même chose. « Rends-moi intelligent et j'étudierai tes commandements. » Parce que ce n'est pas la loi dont se glorifie le légaliste. Ce n'est pas la lettre de la loi qui conduit au légalisme. La lettre de la loi qui nous conduit à oublier la grâce. C'est la sagesse de Dieu. Le discernement pour l'esprit de la loi qui conduit à la grâce. Avec l'apôtre Paul parle de cette question de la lettre et l'esprit. C'est la découverte dans la loi de Dieu de la grâce de la loi. Rends-moi intelligent et j'observerai ta loi. Et en réponse à cette prière, Jésus envoie son esprit pour qu'il nous enseigne toutes choses. L'esprit nous fait accéder à la vérité tout entière, c'est ce que dit l'évangile de Jean. L'esprit qui nous enseigne ce que Jésus nous a enseigné. L'esprit qui nous donne l'intelligence, le discernement, la sagesse de saisir la parole de Jésus comme une parole dynamique. Et c'est pour ça que la parole de Jésus garde du sens pour nous aujourd'hui, qu'elle n'est pas une vieille parole de 2000 ans, qu'elle est une parole vivante aujourd'hui. C'est cet esprit par lequel les apôtres, alors vous connaissez des lecteurs des évangiles, vous avez remarqué que dans les évangiles, les apôtres, ils sont toujours à côté de la plaque. Ils ne comprennent jamais rien. Jésus dit quelque chose, Jésus fait quelque chose. Si les apôtres sont là, ils passent à côté. Ils ne comprennent rien. Et puis, tout à coup, après le don d'esprit, après la Pentecôte, les voici capables d'annoncer les merveilles de Dieu. Ils ont été renouvelés par l'esprit dans leur discernement, dans leur sagesse, dans leur intelligence. Et tout à coup, ce qui leur paraissait mystérieux, incompréhensible, est devenue la parole qui les fait vivre. Heureux qui, suffisamment humble, demande au Seigneur cette intelligence sans laquelle la pensée de Dieu reste obscure, reste hors de portée, pourrait nous paraître décourageante. Ou alors nous l'instrumentalisons pour qu'elle serve à notre vanité de pharisien, ou qu'elle nous conduise à ce légalisme oublieux de la grâce. Ouvrons toujours la parole de Dieu en demandant à Dieu, « Seigneur, accorde-moi cette intelligence pour que je comprenne ta loi. » N'oubliez jamais la parole de Jésus, « je te loue, Père. C'est une des rares prières de Jésus que l'on a. Il y en a un peu, mais celle-ci, on l'a. À un moment, Jésus se tourne vers le ciel et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, à ceux qui se considèrent comme sages et intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Seigneur, donne-moi l'intelligence accueillante d'un tout petit enfant. Donne-moi d'être un tout petit enfant qui sait qu'il a toujours tout à apprendre de toi. Accorde-moi cette sagesse dont l'Écriture dit qu'elle est sagesse de la croix, sagesse de Dieu, sagesse mystérieuse et cachée de Dieu avant les siècles et qu'il avait d'avance destinée à notre gloire. Rends-moi intelligent. Le texte de Romains ce matin, c'est « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On ne connaît pas la volonté de Dieu si on ne la saisit pas dans ce renouvellement du discernement, si on ne la saisit pas dans la parole du Seigneur. Une intelligence humble, sensible au mystère de la grâce qui sauve, sensible à l'amour sans limite de Dieu, manifesté dans l'humanité pauvre, souffrante de son Christ, dans sa faiblesse, dans la force de sa foi, dans sa mort et dans sa résurrection. Cette intelligence de la parole de Dieu qui nous fait ressembler à Jésus. Il y avait un chant dans le temps, « Te ressembler, Seigneur Jésus ». Enfin, il y en a peut-être quelques-uns qui ont un peu disparu. Mais comment pourrions-nous ressembler à Jésus-Christ sans confronter tout le temps nos vies à la parole de Dieu, à la sagesse de Dieu? Cette intelligence est celle de Jésus lui-même, maître de la loi, et qui, par la loi, bénit, sauve, libère, guérit et pardonne. Je crois que nous saisissons la parole de Dieu quand elle devient, dans notre témoignage, source de salut, de libération, de guérison et de pardon. Si la loi devient source de jugement, de condamnation et de rejet, c'est que nous n'avons pas été renouvelés, nous n'avons pas demandé le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais, si cela vous agrée, chaque mois vous inviter à méditer un psaume. J'aimerais simplement dire là, frères et sœurs, n'ayez pas peur des psaumes. Vous n'avez pas peur du psaume 23, ça j'en suis sûr. Mais je sais qu'il y en a quelques autres qui peut-être vous paraissent effrayantes, les cas qu'on a tendance un peu à éviter. N'ayez pas peur des psaumes, n'ayez pas peur de l'océan de la parole. L'océan de la parole, ce n'est jamais que l'océan de l'amour de Dieu qui est insondable dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur, dans sa profondeur, mais dont il nous est dit qu'il nous permet de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance pour que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, si vous le voulez bien, nous avancerons ensemble dans la richesse de la parole du Christ et que la parole du Christ vous habite pleinement, abondamment. Amen.